dialogue et d'avoir retenu ma communication. Donc effectivement, je vais vous parler d'un essai clinique portant sur l'ataxie de Friedreich. Vous voyez, il y a beaucoup de noms, parce qu'il s'agit d'une recherche collective et pluridisciplinaire, qui est dirigée par une neurologue qui travaille en pédiatrie, c'est le docteur Isabelle Husson. Alors tout d'abord, l'ataxie de Friedreich, je vous en dis deux mots, parce que j'imagine que vous êtes nombreux à n'avoir aucune idée de ce que c'est que cette maladie, qui est donc une maladie génétique, donc, qui se transmet lorsque le père et la mère sont porteurs sains ou malades. C'est une maladie très rare, donc un cas sur 50 000, qui débute en général dans l'enfance, même s'il y a quelques rares cas de début de la maladie à l'âge adulte, et qui est vraiment gravissime. Gravissime dans le sens où petit à petit, trop vite pour les personnes bien évidemment, il y a une perte d'autonomie qui se fait. Petit à petit, les personnes perdent la maîtrise de leurs mouvements, leurs réflexes, donc perdent la marche, perdent la possibilité d'écrire, les mouvements fins, n'arrivent plus à articuler, ont des problèmes de vision, voient de moins en moins bien, entendent de moins en moins. Ça provoque également du diabète, des scolioses, des pieds creux. Enfin, en fin de compte, à la fin de l'évolution de la maladie, les personnes ne peuvent plus du tout bouger et puis ont vraiment du mal à communiquer. Ce qui n'était pas évident d'ailleurs pour faire les entretiens, parce que parfois pour parler, c'était pas facile pour eux. Donc, en revanche, ce qui est terrible dans cette maladie, c'est que c'est une maladie effectivement neurodégénérative, mais au niveau cognitif, en tout cas au niveau des capacités intellectuelles, elle reste intacte, et du coup, ils ont pleinement conscience de la dégradation de leur corps. Et à l'heure actuelle, il n'y a aucun traitement. Il n'y a rien. Alors, il y a en plus une incertitude qui est due à une évolution qui se fait par paliers, mais qui varie beaucoup, beaucoup, vraiment, d'une personne à l'autre. Il y a des évolutions qui se font très rapidement, quasiment sans aucun palier, puis il y en a d'autres, il y a une stabilité pendant quelques années, puis après ça se dégrade, et on ne sait jamais quand est-ce qu'il va y avoir ces périodes de dégradation. Et le but de l'étude, c'était donc de tester une molécule, la pioglitazone, pour voir si elle pouvait freiner l'évolution de la maladie, en tout cas la ralentir, ou voire même, dans le meilleur des cas, la stabiliser. Donc pour ce faire, Isabelle Husson a mis en place un essai clinique, ACT-FREE 1, qui était donc un essai en double aveugle, c'est-à-dire qu'on a pris un groupe de jeunes entre 7 et 24 ans, on les a répartis au hasard entre deux groupes, un qui recevait la molécule et un qui recevait le placebo, afin de voir si l'efficacité de la molécule était significative ou pas. Alors, ça a duré deux ans, cet essai, mais il a bien failli s'arrêter avant les deux ans, parce que l'Agence française du médicament a, à un moment, c'était à un moment du médiator, etc., voulu arrêter cet essai, parce qu'il y a eu un retrait de mise sur le marché de cette molécule qui était déjà utilisée dans le traitement du diabète. Donc le médicament pour les diabétiques a été retiré du marché, parce qu'on s'est rendu compte que vers 60 ans, chez les hommes âgés, parfois il pouvait y avoir des cancers de la vessie qui se déclaraient, dans de rares cas. Et en fait, il n'y a eu qu'en France et en autre pays européen où ça a été interdit, c'est tout. Ailleurs, ça n'a pas été interdit. Donc là, il y a une levée de bouclier d'Isabelle Husson et des patients, parce que vous imaginez, c'était le seul traitement qu'on leur proposait, et puis on leur retire. Donc eux, ils disaient, mais attendez, nous, 60 ans, on n'y arrivera jamais. De toute façon, c'est inatteignable pour nous. Et donc il y a eu une lutte de l'association et de médecins, et qui finalement a abouti, donc on leur a permis d'aller jusqu'au bout de cet essai-là. Mais le problème, c'est que à la fin de l'essai, au bout des deux ans, eh bien, ils n'avaient pas la possibilité d'accéder à cette molécule interdite en France. Ce qui fait que donc Isabelle Husson, a mis en place un deuxième essai, Act Free 2, qui est un essai ouvert, c'est-à-dire que tout le monde reçoit la molécule. Donc c'était une façon, bien sûr, de donner accès à la molécule pour les patients, et c'était aussi l'occasion de tester la toxicité de cette molécule-là. Donc, en attendant les résultats, ils ont pu rentrer dans ce deuxième essai. Alors, ça ne s'est pas fait immédiatement. Certains se sont retrouvés sans prise en charge, le temps que ça se mette en place, qu'on ait toutes les autorisations. Et ils partaient à l'étranger, en fait, pour se procurer la molécule. Donc, on attendait de voir si c'était significatif ou pas pendant ce temps-là. Pendant tout, donc de 2009 à 2014, pendant tout le temps de ces deux essais, il y avait vraiment une prise en charge globale, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment suivis au niveau kiné, on leur donnait vraiment des conseils sur l'alimentation, sur les exercices à faire, tous les six mois, on mesurait leur capacité de mouvement, donc ils étaient suivis vraiment de très très près. Il y avait également une prise en charge psychologique pendant toute la durée de l'essai. C'est en ce sens où c'est vraiment une recherche pluridisciplinaire, donc alliant le côté social, psychologique et médical. Donc c'est Vincent Hamelot, qui est psychologue de l'étude, qui fait sa thèse justement sur le sujet. Et Vincent Hamelot et Isabelle Husson se sont dit que c'était important aussi de faire attention à la manière dont on allait annoncer les résultats aux personnes. Il ne s'agissait pas de dire voilà, « ça marche, au revoir, merci » ou « ça ne marche pas, merci, bye ». Parce qu'il y a des études qui montrent que c'est un moment qui peut être compliqué pour les personnes. Donc, ils ont mis en place une troisième étude, FRICOM, où ils ont fait passer un questionnaire sur le mode de communication qu'ils voulaient recevoir pour être mis au courant des résultats. Est-ce qu'ils voulaient que ce soit collectif, individuel, par mail, par lettre, en tête-à-tête? Et en fin de compte, à la fin de l'étude, donc, ce qui a été décidé, ça a été d'envoyer à tout le monde un courrier écrit et un mail, les informant des résultats, plus une rencontre en tête-à-tête avec le médecin et le psychologue par rapport aux résultats individuels. Donc, par courrier, c'était les résultats globaux, et puis en tête à tête, c'était les résultats sur leur propre évolution. Est-ce qu'ils voulaient connaître leur groupe d'attribution placebo ou groupe recevant la molécule ou pas? Ils avaient le choix. Donc, dans cette communication, je vais me centrer sur deux moments. Moi, je n'ai pas participé à l'ensemble du processus. J'ai été sollicitée pour faire des entretiens avec ces jeunes au moment du second essai d'Act Free 2, ça faisait six mois qu'ils étaient inclus dans cette seconde recherche. Donc c'était avant l'annonce des résultats. Donc j'ai fait des entretiens sur leur vécu par rapport à la maladie, leur vécu par rapport au premier essai clinique, au deuxième essai clinique, ce qu'ils en attendaient, leurs espérances. Mais j'ai parlé aussi comment ça va la vie aujourd'hui, quels sont vos projets, la vie amoureuse, professionnelle, etc. Et ça, en fait, les jeunes étaient vraiment très contents de parler d'autre chose de la maladie, parce que quand ils étaient hospitalisés tous les six mois pour faire les tests, ils étaient replongés dans cette maladie qu'ils essayaient d'oublier. Et donc là, du coup, ils étaient très contents de me parler d'autre chose que de maladie. On va utiliser une partie de ces entretiens et également les entretiens d'annonce des résultats qui ont été faits par Vincent Hamelot et Isabelle Husson à la fin des deux essais. Et on s'est demandé donc quelle était la perception du but de la recherche et le vécu de l'essai dans l'incertitude quant à l'efficacité de la molécule, l'incertitude quant à l'évolution de la maladie et l'incertitude quant au groupe d'attribution placebo ou molécule. Est-ce que ce vécu a eu un impact sur la réception des résultats de l'essai? Alors, il s'agit vraiment d'une recherche en cours, c'est-à-dire que Vincent et Isabelle n'ont pas encore donné les résultats en tête à tête à toutes les personnes. Donc, donc Vincent m'a dit, voilà, il y a 4 personnes qui sont intéressantes par rapport au sujet du guérir. Et donc on a croisé nos données anthropologiques et psychologiques pour essayer de comprendre ce qu'il en était. Mais donc ce sera surtout donc autour de la difficulté à accepter le fait que la molécule, je vous le dis, en fait, elle n'a pas une efficacité significative. Mais bien sûr, après, on va prendre en compte toutes les personnes qui l'acceptent. Donc, je prends Rémi, parce que j'ai fait, moi, des entretiens avec les enfants, mais également avec un parent ou deux parents, de manière séparée, hein, je les voyais séparément. Donc, Rémi, qui a 12 ans à l'époque où je l'ai interviewé, donc, lui, il a l'impression que son corps s'est dégradé, et du coup, il s'imagine être dans le groupe placebo. C'est une façon aussi pour lui d'espérer que la molécule soit efficace, puisqu'il constate, lui, que ça se dégrade. Et l'entrée dans le second protocole, je lui demande quelles sont ses espérances. Il me dit une amélioration de la marche et de l'équilibre, parce que là, maintenant, je suis sûre de recevoir la molécule. Alors là, déjà, on voit qu'il y a une première incompréhension, c'est-à-dire qu'effectivement, peut-être qu'il peut y avoir une amélioration, mais qui est nullement due à la molécule. C'est peut-être à la prise en charge kiné, parce qu'il se remuscle un peu, mais pas la molécule qui ne vise pas du tout à une amélioration de son état, mais simplement à freiner l'évolution, à la stabiliser. Pour la mère n'a pas la même opinion. Pour elle, son fils reçoit la molécule, il est dans le groupe qui reçoit donc la pioglitazone, parce qu'elle dit il y a des choses qui se sont améliorées malgré tout, donc il n'y a plus trop de fausses routes de déglutition. Donc au niveau, comment ? Il n'y a pas de souci d'incontinence. Voilà. Par contre, la marche, elle s'est un petit peu dégradée quand même. Mais malgré tout, face à ces petites améliorations, elle pense qu'il reçoit la molécule. Et là encore, on voit qu'elle attribue à la molécule les améliorations qu'elle constate. Donc, on voit très bien que l'entrée dans ce second protocole a réactivé un espoir. Et la mère m'a dit, s'il y a une suite, c'est que les premiers résultats doivent être encourageants. Alors qu'à ce moment-là, on n'en avait aucune idée. Hein. On ne savait pas si c'était encourageant, pas encourageant. Simplement, on ne voulait pas les laisser comme ça, sans rien, en attendant les résultats. Et ben voilà, les gens ont commencé à interpréter le pourquoi de ce second protocole. C'est peut-être, effectivement, ça marche. Bon. Donc, ils étaient pleins d'espoir d'une amélioration qui est complètement en discordance avec la visée du corps médical. Au moment de l'annonce, Rémi, finalement, décide de ne pas connaître son groupe d'attribution. Il dit « Oh non, finalement, je ne veux pas savoir. » Il dit « Ça ne me rapportera rien et puis ça peut avoir des effets négatifs. Si je sais que j'avais le faux, c'est-à-dire le placebo, ce ne sera pas la même chose. » Donc là, on voit qu'il craint d'avoir été dans le groupe placebo alors qu'on vient de lui réexpliquer que la molécule ne marche pas. Donc il a vraiment des difficultés à concevoir que cette molécule n'a pas d'efficacité significative. Donc finalement, c'est vrai que le vécu au cours de l'essai, on pouvait laisser présager une telle réaction. C'est-à-dire effectivement, il espérait une amélioration. La mère avait constaté une amélioration aussi sur certains points. L'entrée dans le deuxième protocole avait réactivé cet espoir, ce qui fait que pour Rémi, c'est difficile d'accepter ce résultat négatif. Autre cas, je vais en présenter 4 en tout. Hein. Jonathan, lui, il a 14 ans. Lui, pareil, étant donné qu'il trouve qu'il s'est dégradé, il dit « bon, j'ai dû être dans le groupe placebo ». Et quand je lui demande qu'est-ce qu'il attend maintenant de cette molécule, il la reçoit, il dit bah, qu'elle guérisse la maladie. Encore une fois, c'est la guérison qui est mise en avant, alors que les médecins oralement répétaient, rappelaient tout le temps qu'il ne s'agissait pas de guérir, on ne pouvait pas guérir, mais on espérait juste stabiliser. Mais lui, il dit bah, qu'elle guérisse la maladie. Et le père aussi, comme pour la mère de Rémi, pense que son fils reçoit la molécule parce que finalement il trouve qu'il s'est quand même assez bien stabilisé, même s'il y a une petite dégradation au niveau de la marche. Et le père, lorsque je lui demande ses attentes par rapport à ce second essai, il me dit c'est qu'il arrête l'évolution de la maladie et s'il peut réparer quelque chose qui est réparable. Or, il était bien dit que ce qui avait été perdu l'était définitivement. On ne pouvait pas revenir en arrière, il n'y avait pas de réparation possible. Donc il est dans cette attente-là d'une réparation due à la molécule. Il pense que la molécule, si elle est efficace, donc elle rétablira au moins en partie des capacités perdues. Au moment de l'annonce du résultat, alors le père qui était très plein d'espoir n'a même pas pu dire à son enfant, n'a même pas lu la lettre qu'ils ont reçue tous disant que la molécule était n'avait pas une efficacité significative. Il n'a même pas pu lui dire. Donc il a confié à l'équipe du psychologue et médecin la responsabilité, enfin la mission, délicate mission de lui dire. Et finalement, donc, il l'apprend sur le coup à ce moment-là et il dit qu'il veut connaître son groupe. Donc il a reçu la molécule et on lui dit qu'au niveau de son testing kiné, c'est-à-dire tous les 6 mois, lorsqu'on on vérifiait finalement, il était assez stable. Hein, il ne s'est pas beaucoup dégradé pendant toute la durée de l'essai. Donc là, il réagit, il dit « je suis content parce que c'était le médicament ». Sous-entendu qui a permis que mon état soit stable, même si j'ai perdu un peu, voilà. Donc là aussi, on voit qu'il a une difficulté à envisager que cette molécule est inefficace, alors qu'on vient de lui dire. Et en même temps, lorsqu'on lui demande comment est-ce qu'il réagit par rapport au fait que la molécule, on ne va pas la lui donner, c'est fini. Là, il change de registre, il dit « je ne suis pas angoissée, non, vous venez de dire que c'est la kiné qui m'a aidée ». Donc, on voit qu'il oscille, qu'il passe tour à tour du médicament à la prise en charge kiné comme raison de sa stabilité et il retient en tout cas toujours les aspects positifs et occulte les aspects négatifs. Alors, Vincent Hamelot me dit que lorsqu'il y a une annonce comme ça, très forte, il peut y avoir des réactions de déni. Hein, effectivement, il a reçu et les résultats globaux et les résultats le concernant lui en même temps. Ça faisait beaucoup d'informations à intégrer. Et là, donc, bien sûr, le vécu de l'essai clinique, l'espérance de guérison tout au long de l'essai était bien ancrée, était partagée notamment fortement par son père, ce qui a contribué certainement à ce déni. Renaud, maintenant, qui a 16 ans, à l'époque où je l'ai vu, par rapport au premier essai, pareil, il dit, c'était pour guérir, enfin, la taxite Friedreich, et voilà. Comme il n'a pas vu d'amélioration, lui aussi a supposé qu'il était dans le groupe placebo, mais on voit que au cours des deux essais, finalement, son opinion a évolué. Et au début, il disait « j'espérais le remède miracle, genre c'est comme l'aspégie qu'on va retrouver très vite quelque chose ». Et puis petit à petit, il se dit « j'espère au moins que ça puisse stabiliser la maladie ». Et on voit qu'il accepte petit à petit la possibilité que cette molécule soit inefficace. Il dit « j'étais peut-être dans le vrai médicament, mais si ça se trouve, ça ne marchait pas ». Donc voilà. Donc il y a cette évolution. La mère aussi, elle dit, par rapport à ses espérances, « c'est qu'au minimum, ça puisse freiner, voilà. Moi, je ne crois pas à ce que ça guérisse. Je n'y crois pas, voilà. » Donc là, on la voit passer du « je n'y crois plus » au « je n'y crois pas ». Donc ça veut bien dire qu'elle avait l'espoir à un moment, tout comme son fils, que cette molécule puisse guérir. Bon, là, ils ont revu leurs espérances à la baisse. Au moment de l'annonce des résultats, Renaud, il n'arrive pas à se rappeler ce qu'il a lu dans la lettre. Il est incapable de dire si elle est efficace ou pas. Il sait qu'il l'a lu, mais il se souvient plus. Il ne se souvient plus du contenu, donc le médecin et le psychologue lui rappellent, lui réexpliquent, et il réagit en disant, dans les deux cas, placebo ou molécule, c'est de la poudre, sous-entendu, ça ne marche pas, de toute façon, que ce soit l'un ou l'autre. Du coup, il ne veut pas connaître son groupe d'attribution. Il dit, c'est pas la peine. Si c'est de la poudre que j'avais, c'est pas grave, mais si j'étais traitée, là, Il continue, je n'ai pas envie d'entendre que j'étais dans le groupe placebo, alors que j'aurais pu avoir la molécule, ça m'ennuie. Là encore, on voit la difficulté qu'il a envisagé que la molécule est sans essai, alors qu'on vient de lui réexpliquer les résultats en tête à tête. Donc il attendait ce remède miracle, sa mère aussi un temps, puisqu'elle est passée du plus au pas, et donc les résultats négatifs sont difficiles à accepter, même si ils avaient envisagé à un moment que ça puisse être inefficace. Donc c'est compliqué. Et je termine avec Merlin. Merlin, qui, alors lui, c'est particulier, parce que Merlin, d'après le testing kiné, hein, c'est vraiment lui qui s'est le plus dégradé de, parmi tous les enfants, enfin les jeunes, là il a 20 ans déjà. Et lui, il n'a même pas eu de palier. C'est-à-dire que c'était de manière continue, il s'est dégradé, il a perdu la marche très rapidement, il ne peut plus écrire, enfin bon. Et lui, il a eu le sentiment de s'être amélioré au moment du second essai, parce qu'il a eu l'impression de marcher mieux. C'est pourquoi il pense qu'il a été dans le placebo dans le premier essai. Il dit, bah, maintenant que je reçois la molécule, je marche mieux. Ça faisait 6 mois hein, qu'il était dans le second essai, quand je l'ai interviewé. Et il donne une autre explication. Il dit, si ça se trouve, je n'ai pas eu le placebo, mais j'ai eu la vraie molécule qui a nécessité un certain temps d'adaptation qui a duré la quasi-totalité du temps d'acte pris 1. C'est-à-dire que ça ne marchait pas au début, mais à force, petit à petit, effectivement, la molécule a commencé à agir et il a fallu au moins les 2 ans pour que ça se mette en place. Donc ça se trouve, j'ai vraiment eu la molécule et qui fait effet maintenant. La mère qui le voit se dégrader pense que bon, il a été dans le groupe placebo, mais le second essai lui redonne espoir également. Et le père, lui, est beaucoup plus positif que la mère. Lui, il va dans le sens de son fils en disant « Mais oui, ses capacités se sont améliorées dans le second essai. » Mais en même temps, ils ont cet espoir, mais ils doutent de leur propre perception. Alors, le verbatim, c'est donc la mère. Et au début, qu'il a pris le médicament, oui, au début, on a même, quand il marchait, quand on le faisait marcher, on avait même l'impression qu'il marchait mieux, qu'il avait marché avant. Mais ça, bon, c'est peut-être le père, c'est peut-être un peu dans la tête, oui, Marguerite, c'est peut-être dans la tête. L'annonce des résultats. Merlin, il souhaite connaître son groupe d'attribution. Il dit, je veux savoir si c'est la molécule qui a fait effet de remonter au 6e mois pour moi. C'est-à-dire, il veut savoir si c'est la molécule qui a été efficace pour moi. Alors qu'on vient de lui dire que la molécule n'est pas efficace. Son argument, c'est oui, sous-entendu, elle n'a pas d'efficacité. Enfin, pour la majorité des gens, on ne sait pas sinon. Donc, il continue hein, en disant que la molécule a peut-être été assimilée par certains et pas par d'autres. Donc, lui, il pense s'être amélioré et il continue dans la même lignée. Pour lui, c'est... Son argument, c'est que c'est un processus graduel d'assimilation de la molécule qui s'est opéré chez lui, et puis une assimilation qui est différenciée d'une personne à l'autre. Donc pour lui, ça a marché petit à petit, et en tout cas pour lui, ça marche. Donc là, pendant toute la durée de l'essai, on voit que cet espoir d'amélioration ressenti par Martin, observé par les parents, même s'ils ont l'impression que bon, c'était peut-être dans la tête, a probablement contribué à nier la réalité de ces résultats-là. Donc, effectivement, l'objectif de l'étude, c'était bien de stabiliser la maladie. Ça a été répété à plusieurs reprises tout au long des 2 essais par l'équipe soignante. Mais on voit que l'objectif exprimé par ces personnes-là, hein, ce n'est pas toutes, bien sûr, on a choisi celles qui étaient dans le déni, en tout cas pour certaines personnes, donc c'était la guérison, l'amélioration des capacités qui étaient attendues, c'était la réparation. Et là, on voit vraiment une discordance entre le discours des parents et des patients et le discours médical, une incompréhension, des décalages vraiment entre le discours et la réception de la parole par les profanes. Alors, je pense aussi en partie un problème de définition, parce que je suis allée revoir les formulaires de consentement, parce qu'avant de rentrer dans un essai clinique, il faut signer un accord. Il y a une lettre qui explique le but de la recherche. Et je suis allée revoir aussi la lettre qui a été écrite annonçant les résultats. Et dans les deux lettres, il y a le terme amélioration qui est utilisé. Sauf que le terme amélioration utilisé par le corps médical n'a pas la même définition que nous, on pourrait l'avoir, nous non-médecins. C'est-à-dire que une dégradation qui se fait plus lentement que prévu, c'est une amélioration. Donc là, je pense qu'il y a eu vraiment un problème de définition. Donc les personnes, ils entendaient ça, mais en même temps, quand ils lisaient les papiers, ils voyaient, on espère, une amélioration. Donc ça a probablement contribué au maintien de cette confusion, en tout cas en ce qui concerne le but des essais et la réception au moment des résultats. Donc il s'agissait vraiment d'une entreprise collective avec certes des représentations communes. Alors il y avait beaucoup de discours autour de l'altruisme, je fais ça pour aider les autres, pour les petits qui viendront derrière moi. Vraiment, il y avait des discours de combat contre la maladie, de courage, d'engagement. Il y avait des représentations collectives comme ça, assez homogènes, mais en même temps on voit qu'il y a des réinterprétations, des réappropriations de l'information, notamment en ce qui concerne ce but de stabilité qui n'a pas été entendu par certaines familles. Le premier puis le second essai a vraiment créé un espoir. En fait, ne serait-ce que le fait de rentrer dans un essai clinique crée un espoir de guérison, même si le but n'est pas la guérison, d'amélioration, de réparation. Mais c'est vrai aussi que d'être inclus dans ces essais, ça a permis de garder la force de résister au désespoir, de continuer à vivre un certain temps. Les changements corporels qui étaient ressentis étaient toujours interprétés de manière positive, hein, c'est-à-dire que si jamais on ressentait une dégradation, oh, ben, c'est parce qu'il avait le placebo. Si on sent une amélioration, on l'attribuait à la molécule, alors qu'elle n'aurait pu que stabiliser au mieux. Alors c'est vrai, il faut le dire, hein, les résultats sont encore en cours d'analyse, mais globalement, les deux groupes ne se sont pas dégradés aussi rapidement que ce qu'on attendait. Mais les deux, que ce soit ceux qui reçoivent la molécule et ceux qui ne reçoivent pas la molécule. Et là, c'est vrai qu'il y a l'essai clinique, mais il y a aussi la prise en charge médicale. Hein, les conseils, les attelles, il faut mettre tel type de chaussures orthopédiques, il faut marcher, force-toi, prends un déambulateur, il ne faut pas rester sur ton fauteuil roulant, il faut avoir telle alimentation. Fait tels exercices de kiné, tout ça a effectivement favorisé. Puis le suivi psychologique aussi, hein, qui les a aidés, parce qu'il y avait des enfants, quand moi je les ai interviewés, ils sortaient de périodes d'automutilation, enfin vraiment de grand désespoir. Et l'entrée dans cet essai leur a permis de continuer à se battre. Alors, normalement, il était prévu qu'ils ne se rencontrent jamais parce que ça pouvait être choquant. Par exemple, quelqu'un qui marchait encore de voir une personne dans un état de maladie plus avancé, en fauteuil roulant, ayant du mal à parler. Enfin, du coup, mais en fait, dans la réalité, parfois ils se sont croisés et c'était pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs, parce qu'il y a des amitiés qui se sont créées à ce moment-là entre les jeunes. Et les jeunes qui ont beaucoup de mal à s'engager au niveau associatif, les parents vont à l'association. Hein, mais les enfants ont du mal à y aller, ben justement parce qu'ils ont peur d'être confrontés aux autres malades, mais beaucoup plus âgés et donc dans un état beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dégradé qu'eux. Ça, c'est une difficulté. Mais finalement, les quelques cas où effectivement ils se sont rencontrés, ça s'est bien passé. Donc, en conclusion, l'annonce d'un résultat global négatif peut être remis en cause, mais de manière argumentée, hein, c'est-à-dire, effectivement, on dit pourquoi, est-ce qu'on pense que, ben non, pour moi ça marchait, ou bien accepter de manière alternative, en oscillant en fonction des possibles effets positifs ou négatifs. Et c'est vrai qu'après un investissement sur plusieurs années, hein, c'était une aventure qui a duré quand même plusieurs années, deux essais cliniques, un troisième maintenant, qui était fait de mobilisation, hein, pour que l'essai puisse aller jusqu'au bout, d'espoir, ça a finalement abouti à un refus de la réalité d'un échec, qui est une forme d'expression de l'inacceptable. le réel est à ce moment-là devenu complètement inadmissible, irrecevable. Et finalement, l'incertitude permettait l'espoir, une certaine forme d'espoir, d'espérer, rester dans cette incertitude. Alors que cette certitude, maintenant que la molécule n'a pas d'efficacité significative, eh bien, elle est impensable pour certaines personnes. Donc maintenant, il va falloir continuer à avancer sans cet espoir-là, mais d'autres recherches sont en cours. C'est pourquoi Isabelle Husson disait, bon, est-ce que vous êtes prêt à participer à d'autres recherches? Il y en a d'autres. Il y en a d'autres ailleurs, à l'étranger. Donc finalement, mettre en avant ça aussi, ça, c'est continuer à donner un peu d'espoir. Les connaissances, c'est vrai, restent incertaines, elles sont en perpétuelle transformation. Il y a encore des recherches en paillasse qui sont faites, des recherches génétiques, il y a des tests cliniques. Et finalement, de revenir à une certaine incertitude sur ces avancées de la recherche permet de réactiver cet espoir. Permet de réactiver cet espoir et les jeunes, ils continuent à vivre. Quand je leur demandais comment est-ce qu'ils vivaient leurs essais, ils disaient effectivement, dans les résultats, je voyais qu'ils ne se projetaient pas dans un avenir très lointain, mais par contre, ils avaient une volonté de vivre vraiment très intense, et ils voulaient vivre le temps présent le plus intensément possible. Ils disaient, je ne veux pas penser à la maladie, parce que finalement, je vais gâcher ma vie, la vie que j'ai, je veux la vivre maintenant, et finalement, ils vivent au jour le jour et ils essayent de mener leurs objectifs aussi loin que possible. Voilà, il y en a une qui rêvait de présenter la météo. Elle est partie vivre avec son copain à La Réunion et elle a réussi à présenter la météo à la télévision de La Réunion. C'était son but, elle est arrivée. Il y en a une qui est partie en Angleterre. Elle a laissé ses parents qui étaient morts d'inquiétude. Elle est partie avec son fauteuil roulant faire des études artistiques. En Angleterre, en tout cas, ils ne se projettent pas très loin. Il y en a qui ont décidé de faire des enfants. Ils ne se projettent pas super loin, mais ils se projettent dans un lointain qui leur est accessible et ils essayent d'aller le plus loin possible dans leur entreprise. Et finalement, en tant qu'ancienne africaniste, je ne peux pas m'empêcher de me dire que quand je travaillais avec les guérisseurs, ils me disaient, nous, on ne peut pas dire à une personne que sa maladie est incurable. C'est quelque chose qu'on ne peut pas dire. Mais ce qu'on va dire, c'est que moi, je ne peux pas te guérir, mais tu peux aller voir ailleurs. Et finalement, cet ensemble d'essais cliniques, c'est un peu ça. Nous, on n'a pas réussi, mais il y a d'autres essais cliniques qui sont en cours et qui peut-être parviendront à aider. Et finalement, on ne les a pas laissés dans la nature, c'est-à-dire que le suivi continue, c'est-à-dire qu'on ne leur donne plus la molécule, mais ils peuvent venir, s'ils souhaitent, toujours à l'hôpital Robert Debré, où ils sont suivis vraiment par des spécialistes tous les 6 mois, et où on mesure finalement l'évolution de la maladie. Voilà. C'est fini.
Merci.